Merci à tous d'être là avec nous. On va commencer. On intègre juste les deux, trois derniers peut-être qui arrivent. Et on va commencer la conférence tout de suite. Bon, on y va. Allons-y.
Oui, on y va parce que sinon on va être un petit peu pris par le temps. On a beaucoup de choses à vous dire. Donc on propose de se présenter déjà. Donc moi je suis Nathalie Simanoer, je suis cofondatrice de KPM Impact et je viens du monde de l'entreprise. J'étais précédemment directrice RSE d'un grand groupe aérien.
Français. Et moi je suis Laurent Garnier, je suis un des deux cofondateurs historiques de KPM et aussi cofondateur de KPM Impact qui est, on va vous expliquer ce que c'est dédié à toutes les problématiques RSE. Globalement, KPM, pour vous présenter qui on est rapidement, notre spécialité, notre domaine d'expertise, c'est le diagnostic des expériences. Alors les expériences clients, collaborateurs, patients, citoyens. Et puis vous allez voir qu'on embarque de plus en plus des diagnostics autour de la perception RSE que peuvent avoir clients et collaborateurs, par exemple. Notre spécificité, c'est les verbatims. On part toujours des verbatims. On part toujours d'enquêtes de satisfaction client ou collaborateur, ou etc., mais toujours à partir des verbatims. Parce que le verbatim est une matière fantastique, c'est une matière précise, c'est une matière riche, c'est une matière foisonnante, c'est une matière qui part dans tous les sens. Bref, ça nous assure de comprendre l'exhaustivité de l'expérience vécue par des clients ou des collaborateurs. On a une méthodologie qui est très pointue, et notamment on est les seuls sur le marché à être capables de mesurer vraiment ce qu'on appelle des notions d'intensité de discours. Qu'est-ce qui est raconté par des promoteurs avec beaucoup d'intensité dans leurs propos par rapport à des choses un peu plus plates? Qu'est-ce qui est raconté avec beaucoup de véhémence par des détracteurs, par exemple? On est capable de capter ça. Et tout n'est pas sur un même plan dans le discours du même promoteur ou du même détracteur. Quand il vous dit « je suis super content parce que trois raisons », les trois raisons ne sont pas sur un même plan dans sa tête. Et nous, on est capable de vous dire que, par exemple, la raison 2 dans ce qu'il vient de vous raconter est la vraie raison du 10 sur 10 qu'il vient de vous donner. Et on est capable de comprendre ça grâce à la syntaxe. Délivrables clés et délivrables importants, phares qu'on a, on a le tracker, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le tracker de l'expérience client, patient, collaborateur, etc., etc. C'est une modélisation qu'on fait à partir des verbatims de l'expérience de différentes populations. Et puis, une des grosses spécialités qu'on a beaucoup développées aussi, c'est la mise en miroir d'expérience. L'expérience des clients versus l'expérience des collaborateurs, l'expérience des managers versus l'expérience de leurs managers, l'expérience du front office versus le back office. Bref, on est capable de mettre en miroir plein d'expériences comme ça, de personnes qui sont en interaction et qui ne se comprennent pas toujours très 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 bien. Voilà le genre de choses qu'on fait, c'est-à-dire voilà la photo potentielle de milliers de verbatims. Voilà comment est-ce qu'on arrive à modéliser à partir des verbatims ce genre de... Voilà qu'on arrive à cette modélisation à partir de milliers de verbatims. Ça vous permet d'avoir sur un seul poster ou fresque, nos clients appellent ça de toutes les façons de la Terre, vous avez finalement cette vision absolument exhaustive de l'expérience vécue par vos clients. Très précise, très quantifiée, c'est ça qu'on fait. Et notamment, vous le verrez, on arrive à capter non seulement, bien sûr, le poids de chacune des thématiques ou de chacun des points d'étape abordés par les clients ou les collaborateurs, grâce aux mesures d'occurrence qui sont là, mais aussi on est capable de capter ces notions d'intensité de discours dont je vous parlais. De quoi parlent les promoteurs quand ils sont très, très, très satisfaits, qui sont dithyrambiques sur les choses, c'est là où vous avez des barres bleues qui montent au ciel. De quoi parlent les détracteurs extrêmement véhéments, c'est là où les barres rouges descendent extrêmement profondément. Ça nous permet de hiérarchiser à travers ces notions d'intensité et ces notions d'occurrence, de comprendre où se passent les choses, où est-ce qu'elles sont, comment les prioriser entre elles, et on va voir à quel point ça nous sert derrière. Mais voilà notre métier. Dernière chose, on a créé KPM au tout début, il y a 19 ans, dédié à l'expérience client. Après, on a créé KPM RH il y a 8 ans, dédié à l'expérience collaborateur. Il y a 2 ans, on s'est associé avec Nathalie pour développer KPM Impact, avec cette idée toute simple de qu'est-ce qu'on fait pour que la RSE ne reste plus des discours corporate, mais redescende et s'ancre véritablement dans l'expérience quotidienne des clients et des collaborateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est la compétence RSE associée à une compétence expérientielle, on va dire, qu'on a mis en commun dans KPM Impact. Et puis plus récemment, avec Thierry, qui est là au fond de la salle, on a créé KPM Next, qui est dédié à l'activation, au-delà des résultats d'études qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en mouvement des entreprises autour de diagnostics clients, collaborateurs, RSE? Qu'est-ce qu'on fait pour mettre d'accord un codir? Qu'est-ce qu'on fait pour les aider à faire un plan d'action? Et qu'est-ce qu'on fait pour embarquer toute une entreprise? Et on développe beaucoup de problèmes de culture client qui sont le parallèle indispensable à l'expérience client aujourd'hui. On peut travailler l'expérience client, mais s'il n'y a pas de culture client au sein d'une entreprise, c'est compliqué forcément. Donc ça se développe, ça s'encourage. Voilà. Dernière chose, on a fait 950 modélisations, c'est-à-dire qu'on a des références dans tous les sens, pour vous avoir une liste de clients, mais 950 modélisations en 9 ans, voilà la liste des clients, c'est pas complètement actualisé, mais ça vous donne une idée des domaines dans lesquels on est intervenu, des marques pour lesquelles on est intervenu, il y a peut-être votre logo ici. C'est très diversifié, il y a plein de marchés très différents. Et puis parmi ces marques que vous voyez ici, on a travaillé avec beaucoup de champions, des champions de l'expérience client, de l'expérience collaborateur, c'est-à-dire des entreprises qui trustent les podiums de la relation client. On accompagne Maïf depuis 10 ans, tous les ans, pour leur trouver des nouveaux insights, des nouvelles choses émergentes, par exemple. On a fait progresser des entreprises qui n'étaient pas très orientées clients et qui sont beaucoup plus orientées clients aujourd'hui, par exemple. Enfin voilà, des choses comme ça, et c'est ça qu'on voit, que vous voyez à travers ces entreprises-là. Dernière chose, on a remporté plein de prix d'innovation pour tout ce dont je viens de vous parler. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail des prix, mais dans plein de cercles différents, etc. Enfin bref, c'est bien, ça fait plaisir.
Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc avant de rentrer dans les 7 initiatives qu'on vous a promis de vous présenter, on voulait d'abord partager un constat, un état des lieux, du fait que les clients sont aujourd'hui en perpétuelle mutation. Et surtout qu'ils ne cessent finalement de réévaluer leurs valeurs, leur sens de l'engagement. Donc on voit ça de façon extrêmement forte. Et que finalement, dans l'expérience client, on a l'intuition que la dimension citoyenne va devenir effectivement prédominante. Donc cette recherche effectivement de sens, de valeur, et aussi au sein des entreprises, vous l'aurez sans aucun doute remarqué, une quête aussi de sens au travail, de sens du travail pour l'ensemble des collaborateurs.
On parle de plus en plus, nous, dans nos termes, du « never normal customer », c'est-à-dire cette idée que le customer, la normalité est terminée. Il n'y aura plus de normalité. Il n'y aura plus de période anormale par rapport à des périodes normales. On va aller de période anormale en période anormale. Donc on est vraiment dans le concept du never normal customer, ce qui a plein de conséquences sur le management des entreprises. On ne peut plus prévoir. Donc il faut être plutôt sur des qualités de résilience. Il faut développer des capteurs extrêmement fins qui permettent de comprendre, dans la nouvelle crise qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'il faut prévoir, sur quoi il faut se positionner rapidement, etc. C'est ça les enjeux. Donc de plus en plus, c'est une vraie donnée.
Alors pour appuyer ce constat et cet état des lieux, quelques chiffres. Donc notamment ce chiffre qui est extrêmement frappant, qui vient d'une étude publiée dans la Harvard Business Review, faite auprès de 25 000 consommateurs mondiaux, qui dit qu'en 2022, 60% des clients estiment que leurs priorités changent en fonction des événements mondiaux. Et on voit l'accélération très forte, puisque en 2021, il n'était que 50%. Et dans cette même étude, d'ailleurs, le même nombre de consommateurs déclaraient aussi avoir totalement réévalué leurs objectifs de vie et leurs valeurs en 2022. Quand on parlait aussi de quête de sens et de convergence entre le sens recherché par les clients et les collaborateurs, donc ces chiffres de l'enquête Edelman, du baromètre Edelman de la confiance 2022, qui dit que 58% des clients aujourd'hui sont prêts à choisir une marque et à la recommander pour leurs convictions, pour les convictions qu'elles portent et les valeurs qu'elles portent, et de la même façon, 60% des collaborateurs sont prêts à choisir un employeur en fonction de ces mêmes convictions et de ces mêmes valeurs.
Alors, on va parler de RSE, mais avant de parler de RSE, il faut parler de défiance. Je veux dire, on ne peut pas parler d'expérience déjà sans parler de défiance, et encore moins quand on parle de RSE. Pourquoi ? Pourquoi défiance et expérience ? Parce que, globalement, comprenez bien que si on est à l'avènement, enfin, si on est vraiment à l'heure de l'expérience, et on ne fait que parler d'expérience partout, hein, clients, collaborateurs, enfin tout devient expérientiel, c'est parce qu'à la base, l'expérience est la meilleure réponse à la défiance ambiante. On est plein pied dans une société de défiance depuis 15 ans, tout le monde en est persuadé aujourd'hui. Il y a 15 ans, c'était un peu plus compliqué quand on est arrivé avec ces termes de société de défiance. Mais pourquoi est-ce que l'expérience est la meilleure réponse à la défiance ? Parce que c'est une défiance qui a deux ramifications essentielles. C'est une défiance vis-à-vis de tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est gros, tout ce qui est institutionnel, et c'est une défiance vis-à-vis des discours. Si vous réfléchissez à ce que c'est que l'expérience, c'est souvent des actes que pose une entreprise. C'est le gars qui vient vous livrer quelque chose, c'est le réparateur qui vous solutionne votre problème, c'est la personne qui, au coup de fil, au bout du fil, vous règle votre problème administratif. L'expérience, ce sont des actes. Et les actes mentent moins que les discours. C'est pour ça que déjà, c'est une antidote remarquable à la défiance. Et puis souvent, cette personne qui s'occupe de vous, c'est un individu de l'entreprise. Et c'est forcément le rapport le plus désinstitutionnalisé que vous puissiez avoir avec quelqu'un de l'entreprise. Donc parce que c'est une personne et parce que c'est des actes, l'expérience, et c'est les fondements de l'expérience, l'expérience est la meilleure réponse à la défiance. Donc l'expérience est née de la défiance. Donc nous, on est habitués à traiter la défiance. Mais alors, quand on est arrivé sur le terrain de la RSE, mais ça a été, c'est dingue, parce que sur le terrain de la défiance, la RSE, c'est le champion du monde. C'est une défiance plus, c'est une défiance au cube, ou je ne sais pas ce qu'on veut, pire que ça. Donc, comprenez bien que dès qu'on parle de RSE, il faut s'attaquer tout de suite à cette notion de défiance, et c'est ça dont on va parler, bien sûr. Une défiance qui est donc démultipliée quand on parle de RSE. Moins d'un Français sur trois fait globalement confiance aux engagements des entreprises, pour dire le niveau. Et le doute qu'il peut y avoir, et ce verbatim, je n'ai aucune action ou entreprise, c'est un verbatim d'un client qu'on interrogeait, etc., qui dit « j'ai aucune action ou entreprise particulière en tête à ce sujet, car désormais tous s'y mettent et font leur publicité à des fins marketing, et font quasiment tout pareil, que ça devient trop habituel et que je n'ai pas plus attention. Le français n'est pas parfait, mais on comprend bien l'idée qui est véhiculée là, et ça en dit long sur la défiance de base qui est ressentie. »
Alors par rapport à ce contexte, on a mené une enquête récente pour l'édition Pro Durable auprès de professionnels de plus de 60 grandes entreprises de tous secteurs confondus, et on leur a posé la question de quels sont vos trois défis majeurs en termes de RSE, et voilà ce qui ressort. Donc le premier défi, c'est vraiment et de loin comment engager l'organisation, comment engager l'ensemble des collaborateurs sur les sujets de la RSE. Le deuxième, c'est bien sûr comment on transforme l'entreprise, comment on revisite les modèles, comment on se réinvente et comment on embarque du coup la stratégie et la gouvernance de l'entreprise. C'est bien sûr l'action sur les enjeux environnementaux, ça paraît évident, mais c'est donc en troisième, mais aussi sur des enjeux sociaux et sociétaux. Et enfin, c'est aussi comment mesurer l'impact et comment on arrive à démontrer qu'on crée de la valeur avec des initiatives RSE.
Alors, ces sept initiatives qu'on va vous présenter, elles viennent de différents travaux qu'on a faits. Premier travaux, c'est nos études clients. On fait des études clients avec forcément des éléments sur la RSE, des focus sur la RSE, donc ça nous a nourris. On avait fait l'année dernière une enquête nationale, à un niveau national, auprès de 2000 Français. On les avait interrogés sur les meilleures initiatives ou au contraire les plus grands manquements qu'ils pouvaient percevoir de différentes entreprises. Ça nous a beaucoup nourris aussi. Dans ces 2000 Français, il y avait 500 collaborateurs d'entreprises de plus de 1000 collaborateurs. D'accord ? Donc 500 personnes qui étaient aussi collaborateurs d'entreprises de plus de 1000 collaborateurs, donc de grandes entreprises, qu'on a interrogé aussi sur leur perception des initiatives RSE de leur propre entreprise. D'accord ? Donc des études, 2000 Français qu'on interroge en tant que consommateurs, 500 collaborateurs qu'on interroge, et puis cette enquête qu'on vient de faire juste auprès de 60 professionnels de grandes entreprises françaises, et qu'on a interrogé sur leur perception des différentes initiatives RSE. Tout combiné, c'est ça qui nous a permis de faire émerger ces sept initiatives.
Et ces sept caractéristiques d'initiatives.
Oui, des typologies d'initiatives, on va dire. Première typologie d'initiative, c'est tout ce qui est première force, et ce qui est premier driver puissant, c'est des initiatives qui sont visibles et concrètes. Et on va comprendre tout de suite l'intérêt de ça par rapport à la défiance dont on vient de parler. Plus c'est visible, plus c'est concret, plus ça répond bien sûr à la défiance ambiante.
Alors, dans ce type d'initiative, ce qui nous a été remonté, c'est notamment l'initiative Too Good To Go. Je pense que vous connaissez tous cette initiative, cette plateforme qui met en lien les surfaces, les magasins qui ont des invendus et les consommateurs qui souhaitent pouvoir acheter aussi moins cher et rentrer dans ce système d'anti-gaspillage. Mais aussi, c'est Too Good To Go et aussi toutes les initiatives anti-gaspi qui ont été mises en place dans les grandes surfaces, que ce soit Carrefour, Lidl ou Intermarché. Donc on voit bien que ça répond à un vrai besoin. Aujourd'hui, 40% de la production alimentaire est jetée. Donc rentrer dans moins de gaspillage, c'est vraiment un enjeu extrêmement concret. C'est aussi extrêmement visible, palpable pour les consommateurs. Ils voient dans les magasins, dans les grandes surfaces, comment ça se passe, où ça se passe. Et effectivement, ça parle. Donc ce verbatim qui nous a été remonté synthétise les choses. Donc, opération zéro gaspillage dans beaucoup de magasins comme Intermarché, Carrefour ou Lidl, de mettre en rayon des produits presque à date périmés, concrets, facilement observables pour les clients, quantifiables en termes d'impact.
Et ça, c'est verbatim des professionnels qu'on a interrogés qui portent ces jugements sur ces initiatives. Donc, les leviers autour de ces initiatives visibles et concrètes, on le comprend bien. On est sur des initiatives donc visibles, facilement observables. Et forcément, si c'est visible et facilement observable, c'est très très bon par rapport à la défiance dont on parlait tout à l'heure. C'est une des façons forcément d'aller répondre à cette défiance ambiante. Elles sont inscrites dans l'expérience, c'est-à-dire que les clients les vivent. On en revient aux actes dont on parlait tout à l'heure. On n'est plus dans le discours, on est dans les actes, puisque je le vois, je le vis, etc. Forcément, c'est extrêmement opérant. On est sur des enjeux concrets, et puis on est souvent dans une grande simplicité. Et la grande simplicité, on sait bien que plus c'est simple, plus ça crée de la confiance, bien évidemment, et c'est la force de ce type d'initiative.
Alors, dans ce type d'initiative, on nous a aussi remonté d'autres actions. Donc, je prends à gauche, donc McDonald's, avec le remplacement de la vaisselle jetable. Alors, vous allez me dire, oui, bien sûr, c'est réglementaire, donc ça ne compte pas. Néanmoins, c'est tellement visible, c'est tellement massif, c'est tellement important. En plus, ils l'ont fait quelques mois avant le passage en réglementaire, que ce sont des choses qui remontent et que les clients, les consommateurs voient. Autre initiative qui nous a été remontée, celle de Back Market. Je pense que vous connaissez Back Market. Ils travaillent sur le reconditionnement des téléphones portables. C'est vrai que passer de l'achat d'un téléphone neuf à un reconditionné, c'est pas toujours très évident de mesurer quel impact ça a. Qu'est-ce que ça veut dire très précisément. Donc ils ont fait une campagne qui est très parlante, puisqu'ils disaient la différence entre le neuf et le reconditionné, 68 800 litres d'eau. Ben, tout de suite, on se dit, oui, c'est vrai, il y a de l'impact et c'est clair, c'est concret, c'est palpable. Et puis côté collaborateur, on nous a remonté que ce qui parlait, ce qui était visible au sein des entreprises, c'est le passage entreprise à mission ou l'engagement dans des labellisations, notamment B Corp. Et là, vous avez Nespresso qui affiche fièrement sa certification B Corp sur l'ensemble des devantures de ces magasins. Donc ça rend les choses extrêmement concrètes pour le client, parce que même s'il ne sait pas exactement ce que c'est B Corp, il se pose la question, il se demande ce que c'est. Et c'est extrêmement engageant pour les collaborateurs qui éprouvent une certaine fierté et qui, en plus, sont amenés à se faire les ambassadeurs de cette démarche B Corp auprès des clients.
Deuxième type d'initiative plébiscitée par les clients, les collaborateurs, les professionnels, tout ce qui consiste à créer des nouveaux repères pour les clients dans cette nouvelle consommation auquel on essaye de les inviter à aller.
Alors, l'initiative qui nous a été remontée comme inspirante et transformative, c'est celle de Leroy Merlin. Donc, Leroy Merlin qui a créé récemment le Home Index. Donc, le Home Index, c'est une forme de Nutri-Score environnemental et sociétal, puisque ça marche pareil, des notes de A à E. Donc cette initiative est partie du fait que chez Leroy Merlin, ils se sont dit « comment est-ce qu'on évalue finalement l'impact des produits ? Comment est-ce que je peux évaluer si une peinture, si un parquet est responsable ou pas ?» Et en fait, ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien. Donc ils ont décidé de se lancer ça a mis 3 ans pour qu'ils constituent ce score qui se veut assez universel. Et au départ, ils l'avaient fait pour l'interne, pour aussi impliquer les fournisseurs et faire en sorte que il y a quelque chose de positif qui se mette en place. Parce qu'évidemment, un fournisseur, s'il a un produit qui est E, il va essayer de s'améliorer largement pour que son produit s'améliore. Et en fait, en s'apercevant qu'il y avait un vrai besoin aussi pour les consommateurs d'avoir de nouveaux critères, de nouveaux repères d'achat, ils ont décidé de l'afficher. Donc de l'afficher sur leur site web et depuis quelques mois aussi en magasin. Donc ça a vraiment un effet vertueux, des nouveaux repères d'achat et un cycle d'amélioration continue.
Et sur plus de 35 000 références maintenant chez eux, vous vous rendez compte, c'est massif, c'est vraiment massif, c'est pas un petit truc, etc. C'est en train de se généraliser très largement. Alors les leviers derrière ce type d'initiative, vous le comprenez bien, l'intérêt d'avoir cette approche, c'est que ça permet de bousculer les critères d'achat traditionnels, c'est-à-dire que tout d'un coup, je donne une nouvelle information au client, un nouveau repère, et forcément, ça devient un nouveau critère d'achat pour le client, et c'est une des façons de changer les choses. Ça crée de la transparence aussi, ce qui est forcément extrêmement vertueux. Ça permet de faire de la pédagogie aussi, vous comprenez bien l'intérêt, c'est-à-dire que tout d'un coup, on s'informe, on comprend mieux les choses, etc., etc. Et puis, ça a un effet d'entraînement assez vertueux, Nathalie en a parlé, bah, ça pousse tout simplement les fournisseurs à aller vers des produits plus vertueux, plus, etc., plus performants sur ce terrain-là, bien évidemment. Donc plein d'effets.
Voilà. On nous a aussi parlé de deux autres initiatives, celle de Maison du Monde qui a créé son label Good is Beautiful et qui, dorénavant, sur son site internet, permet d'avoir comme critère de sélection non plus seulement la couleur, la taille, la dimension, etc., mais aussi des critères... des critères responsables, donc, comme par exemple des produits made in France ou en bois responsable ou en matière recyclée. Et puis aussi l'éco-score de la Poste, le score écologique, excusez-moi, qui permet effectivement de mesurer l'impact de ces envois ou de ces réceptions et de décider finalement quel type de livraison, par exemple, est plus performante d'un point de vue environnemental et d'inciter effectivement des changements de comportement chez les utilisateurs.
Troisième typologie d'initiatives, il y a ces initiatives qui embrassent le plus grand nombre, qui tendent vers le plus grand nombre. Forcément, plus on touche de monde, plus c'est efficace. Deux types d'initiatives au départ dont on voudrait parler.
Oui, alors la
une
première...
sur les clients.
Oui, voilà, une sur les clients, effectivement. Alors celle qui a été la plus plébiscitée, c'est celle de Decathlon. Decathlon qui s'est lancé dans l'éco-conception. Alors, ce n'est pas une initiative récente. Ça a démarré il y a maintenant plusieurs années, il y a pratiquement 11 ans. Ça a démarré avec l'éco-conception d'une polaire en fibre recyclée. Et en voyant que ça fonctionnait bien, ils sont allés plus loin. Et récemment, début 2023, ils ont lancé cet objectif, ce défi hein, de passer à 100% d'éco-conception dès 2026. Donc vous imaginez à quel point c'est ambitieux, c'est massif, ça parle à tout le monde, c'est un objectif du coup qui engage et qui engage aussi évidemment les collaborateurs parce qu'on ne peut pas atteindre ce niveau d'éco-conception si on n'engage pas l'ensemble de l'organisation. Alors, deux verbatim qui nous ont été remontés sur cette initiative et qui parlent beaucoup par les professionnels. Cet objectif de 100% est de nature à donner confiance aux consommateurs. Je vais chez Decathlon, j'achète éco-responsable. La cible est considérable et elle est communicable. Vous voyez à quel point, du coup, on associe Decathlon à une marque totalement responsable. Ou encore, l'implication des salariés dans ces actions si importantes est au cœur de la transformation de l'entreprise et rend la stratégie très crédible. On ressent que la RSE est dans l'ADN de l'entreprise. Deuxième initiative qui nous a été remontée, là, plutôt côté collaborateur aussi, sur cet effet de masse, c'est l'initiative d'AXA Climate School. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est parti du fait qu'en 2019, AXA... était tout à fait conscient que le plus gros défi, comme on l'a vu précédemment, c'est bien d'engager les collaborateurs, de les former aux enjeux climatiques. Et se sont aperçus qu'il n'y avait pas vraiment d'offres, en tout cas à l'époque, hein, parce qu'il y en a maintenant beaucoup qui se sont développées, qui permettaient de former de façon facile, accessible et assez courte les collaborateurs. Et finalement, donc, ils ont créé ça pour leurs collaborateurs. Ils en ont fait maintenant tout un business model, puisque la formation AXA Climate School est accessible pour les particuliers, pour les collectivités locales à titre gracieux, et est ouverte aussi pour l'ensemble des entreprises qui souhaitent former leurs collaborateurs.
Et donc, l'ensemble des collaborateurs d'AXA sont passés à l'école.
Voilà. Et donc, douce verbatim, AXA a réussi à former en masse ses collaborateurs et de manière qualitative. Et si vous ne connaissez pas AXA Climate School, je ne fais pas de publicité, mais c'est très bien fait. Vous pouvez y aller.
Alors les leviers autour de ça, vous comprenez bien que le fait de... Le nombre démontre le sérieux de l'engagement de l'entreprise. Enfin, je veux dire, quand vous vous attaquez et que vous voulez proposer des choses à 100% de vos clients ou à 100% de vos collaborateurs, ce n'est pas une petite frange de clients ou une petite sélection de collaborateurs triés sur le volet auxquels vous vous adressez à tout le monde. Ça démontre véritablement le sérieux et ça renforce forcément la crédibilité de votre action. Ça associe fortement aussi la marque à son engagement. Décathlon égale éco-responsable. Ça ancre le truc. C'est hyper puissant comme message. Hyper puissant. Ça crée de l'impact parce que c'est visible et c'est communicable. Et forcément, quand vous dites 100%, c'est facile à raconter, c'est facile à communiquer. Et Dieu sait si les communicants aiment les choses faciles à raconter. Et puis derrière, ça touche le plus grand nombre. Nous l'oublions pas. Enfin, je veux dire, c'est 100% des collaborateurs d'AXA qui sont passés qui comprennent mieux, qui ont une meilleure perception des enjeux climatiques. Ça a une vraie force aussi. Nous l'oublions pas. Donc le nombre compte, bien évidemment. L'autre initiative qui est intéressante là-dedans, c'est même si c'est un peu que de la communication, mais c'est à quel point la SNCF, notamment dans les TGV, vous martèle que vous êtes dans le mode de communication, le mode de transport le plus écologique. Et ils vous le répètent, et à chaque fois que vous prenez le TGV, bam, vous y avez droit, etc., etc. C'est puissant, c'est hyper efficace, ça marche, et ça s'ancre petit à petit dans nos têtes que prendre le train, c'est le... etc. Et on le sait. Et c'est ça, la répétition, le fait que vous n'y échapperez pas, quand vous montez dans un train, vous y avez droit, et c'est ça qui est fort. Quatrième type d'initiative, ce qu'on va appeler les initiatives multidimensionnelles, où on les a appelées, nous, les initiatives win-win-win, c'est-à-dire que c'est des initiatives qui ne font pas gagner qu'une dimension, c'est-à-dire que elles sont bonnes pour la planète, mais elles sont bonnes aussi pour le portefeuille des clients, et elles sont bonnes pour l'entreprise. Elles sont extrêmement vertueuses. On va commencer par un exemple avant de décortiquer tout ça.
Alors, l'exemple plébiscité qui nous a été remonté le plus grand nombre de fois, c'est encore Décathlon. Décathlon qui s'est lancé dans un modèle circulaire. Donc, vous avez certainement tous vu cette photo qui devient très virale, très connue, de Décathlon qui est devenu une Noltaced en Belgique pour justement parler de ce shopping à l'envers, puisque passer en modèle circulaire, ils ont demandé à leurs clients de ramener leurs produits Décathlon pour les faire passer en seconde vie en leur donnant un bon d'achat. Donc, effectivement, c'était positif pour eux. Mais aussi, l'initiative plus nouvelle de Décathlon qui s'est lancée dans le modèle de la location. Donc, passer de l'économie de la possession à l'économie de l'usage sous le nom de WePlay Circular. Donc, une initiative qui a été faite d'abord en mode proof of concept en Belgique, mais qui maintenant va être déployée partout et qui est effectivement positive pour tout le monde, puisque le modèle est rentable pour Décathlon, ils l'ont prouvé. C'est aussi positif pour les clients, puisqu'ils se sont aperçus que les clients pouvaient d'abord tester beaucoup plus de sports et que finalement ça coûte 6 fois moins cher pour les clients que s'ils avaient dû acheter l'ensemble des matériels et des vêtements de sport. Et puis, évidemment, c'est bon pour la planète parce que quand on est dans l'économie circulaire, on économise des ressources, etc., de la logistique, etc. Donc c'est deux verbatims. Décathlon a trouvé un modèle d'affaires circulaire soutenable et gagnant pour toutes les parties prenantes. Cela permet aussi aux citoyens d'accéder plus facilement et à moindre coût au sport et donc aussi à la santé et au bien-être. Donc aussi des effets win-win-win-win-win.
Alors les points forts de ces types d'initiatives, c'est qu'elles sont d'abord cohérentes. Il n'y a aucune partie qui est sacrifiée. Je veux dire, toutes les dimensions s'y retrouvent. C'est bien sûr vertueux. Et puis il y a un côté irréprochable, c'est-à-dire qu'on ne on fait pas, il y a pas, on fait bénéficier le client, mais la planète en pâtit ou vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Donc ça cultive une forme d'évidence. Et puis il y a un côté sans faille presque dans ce type d'initiative. Et Dieu sait si c'est important parce que quand vous lancez une nouvelle initiative, etc., tout de suite elle se fait désinguer. Enfin, la plupart du temps, il y a une telle suspicion, il y a une telle défiance, etc., qu'a priori dans le cycle de vie d'une initiative RSE, elle doit en prendre, excusez-moi l'expression, plein la gueule au début, en espérant quand même de se séduire quelques individus pour pouvoir gagner sa crédibilité en s'installant dans le temps. Donc c'est quand même ça la vie le cycle de vie d'une initiative RSE, ça commence par des foudres, d'accord. Donc être quand même très bon sur les trois dimensions, ça a quand même beaucoup de vertus. Et ça fait que cette initiative, elle est beaucoup moins attaquable, presque inattaquable, c'est ce qu'on met ici, et c'est forcément une force.
Alors, rapidement, on nous a aussi remonté des initiatives autour de la seconde main qui se développent de plus en plus et dans tous les secteurs d'activité. Donc, on nous a remonté H&M dans le secteur textile, pareil, ramener ses affaires contre des bons d'achat. The Body Shop, avec son système de refill, donc vous ramenez vos contenants et on vous remplit, et forcément, c'est moins cher et c'est plus abordable. La Maïf et la Massif qui proposent pour vos réparations d'utiliser des pièces de réemploi. Donc c'est pareil, c'est vertueux d'un point de vue environnemental et moins cher pour le consommateur. Et enfin, l'atelier Bocage qui rentre aussi dans un système de location. Donc Bocage, c'est des chaussures et des sacs, de la maroquinerie. Et donc maintenant, avec un abonnement, on peut louer ces chaussures plutôt que de les acheter. Et ensuite, ces chaussures sont remises dans un circuit de seconde main. Donc aussi un cycle très vertueux et gagnant, gagnant, gagnant. Et c'est vrai que les chaussures, ce n'était pas le premier article sur lequel on pouvait imaginer de passer en économie circulaire et en seconde main. Mais du coup, ils ont aussi développé tout un tas de process derrière.
Et aujourd'hui, ça fait 5% de leur chiffre d'affaires, la location de chaussures. Vous vous rendez compte, enfin, c'est loin d'être négligeable.
Finalement. En seulement quelques années.
Cinquième type d'initiative, c'est cette idée de créer de la valeur avec la fragilité. Alors, il n'y a pas de cynisme là-dedans. Mais c'est créer de la valeur autour de ce qu'on appelle la fragilité, c'est-à-dire le handicap ou la maladie. Je passe la parole à Nathalie là-dessus.
Alors, l'initiative publicité, vous la connaissez sans doute, c'est l'initiative de Café Joyeux. Café Joyeux, c'est un entrepreneur, Yann Bucaille, qui, en 2017, une personne de sa connaissance qui était autiste lui a dit « Est-ce que vous n'auriez pas un travail pour moi ?» Et il s'est dit « Il y a un vrai sujet ». Et donc, l'idée des Cafés Joyeux est apparue à ce moment-là. Et l'objectif, c'est de donner un vrai travail dans une vraie entreprise qui a sa rentabilité, qui est une entreprise privée, à des personnes atteintes de trisomie ou des personnes autistes. Donc c'est effectivement changer réellement le regard sur le handicap. Aujourd'hui, Café Joyeux, c'est 11 cafés, tous en centre-ville. Je ne sais pas si vous y êtes allés, mais je vous invite à aller vivre cette expérience parce que, bien sûr, côté collaborateur, vous avez compris. Et on peut même acheter du café, absolument. Et du côté client, c'est aussi une expérience qui est vraiment extrêmement riche.
Alors, les leviers autour de ça, c'est exactement ce que vient de dire Nathalie, c'est-à-dire que ça transforme et ça enrichit l'expérience client. Quand vous allez chez Café Joyeux, vous vivez une expérience que vous n'avez jamais vécue dans un autre café. Ça n'a rien à voir. C'est absolument impressionnant. Il y a un rapport à une forme d'authenticité qui est que les entreprises cherchent désespérément autrement, en la construisant, en la designant, etc., etc. Là, elle est là, mais brute de fonderie. Et c'est ça qui est absolument impressionnant, et c'est ça qui est inoubliable. Donc il y a des expériences clients totalement enrichies par ce contexte-là. On va donc vers des relations plus authentiques, excusez-moi. Ça démontre l'humanité de l'entreprise aussi, bien évidemment, parce que quand on s'intéresse au handicap ou quand on s'approche des gens qui sont dans les cas de maladie, Nathalie va vous donner l'exemple derrière, et bien forcément, ça démontre de l'humanité. Et puis là, je ne dirais pas accessoirement, mais aussi, c'est un des effets de bord importants, c'est que ça change le regard sur le handicap, sur la fragilité, et parfois même sur la maladie.
Alors, d'autres initiatives qui nous ont été remontées. Donc, côté client, comment on rend son produit plus inclusif, c'est les heures silencieuses de Carrefour. C'est vrai que ça a été beaucoup communiqué par Carrefour, donc c'est maintenant associé à Carrefour. Mais pour rendre à César ce qui appartient à César, en fait, ça a été développé par Super U dans 1600 boutiques. Donc c'est une heure l'ambiance lumineuse et l'ambiance sonore est retravaillée pour permettre aux personnes autistes, notamment, enfin c'est le premier objectif, de pouvoir faire leurs achats dans une ambiance qui est adaptée à leur handicap. Mais comme vous l'imaginez aussi, c'est rendre aussi accessible et une expérience différente pour bien d'autres publics, puisque finalement ça concerne absolument tout le monde. Le deuxième initiative toujours côté client, c'est Includeo par Tefal, qui a développé une gamme inclusive d'appareils de petit déjeuner, notamment pour les personnes malvoyantes, avec des boutons qui sont plus gros, plus adaptés, et tout en gardant un design qui est désirable. Et puis, pardon, et puis côté plus collaborateur, donc le pledge qui a été lancé par Publicis Group pour concilier la maladie et le travail, donc notamment le cancer. Donc c'est Arthur Sadoun, le patron de Publicis, qui s'est trouvé frappé par le cancer et qui a pris conscience qu'il y avait un vrai sujet au sein des entreprises de pouvoir concilier les traitements, la maladie, la gestion de sa maladie et sa mission. Et on sait à quel point c'est important aussi de retravailler rapidement quand on est atteint de ce type de maladie. Et donc, il a lancé un pledge auprès de l'ensemble des entreprises, et notamment Sanofi, qui avait déjà développé un certain nombre d'initiatives pour concilier le cancer et le travail, a bien sûr rejoint aussi ce pledge. Et puis enfin, Keolis, qui a travaillé sur un autre type de fragilité, si on peut appeler ça une fragilité, mais qui permet à ce que chacun se sente en sécurité quand il va prendre les transports en commun, et notamment sur le sujet des femmes qui peuvent se sentir parfois un peu en difficulté, notamment sur les horaires tardifs. Je me dépêche parce qu'il nous reste deux initiatives.
Sixième initiative, je n'irai pas plus loin, juste le titre, oser la radicalité, vous allez voir tous les bénéfices qu'il peut y avoir avec ça.
Alors l'initiative première qui est remontée, c'est celle de Patagonia. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc le patron, le propriétaire de Patagonia, Yvon Chouinard, qui a annoncé qu'il cédait l'ensemble 100% des parts de son entreprise, qui est seulement valorisée à 3 milliards de dollars. Donc vous voyez le renoncement à un trust qui va assurer que les valeurs de son entreprise seront respectées et que l'ensemble des bénéfices vont aller à une association de lutte contre la crise environnementale. Un peu plus près de nous, ce type d'initiative a aussi été prise par Léa Nature, qui est peut-être un peu moins connue et qui a aussi décidé de déshériter sa famille, ses enfants, avec leur accord, pour progressivement céder l'ensemble de l'entreprise à une fondation actionnaire. Le verbatim, investissement des profits dans la planète, radical et efficace, effectivement.
Alors les leviers derrière ça, vous les comprenez bien, c'est ça permet de créer un nouvel ordre. C'est-à-dire que tout d'un coup, on comprend bien que ces entreprises-là ont des priorités nouvelles. Elles ne sont pas obsédées par leur chiffre d'affaires, par leurs bénéfices, par leur rentabilité, par le cours de l'action, etc. Elles ont d'autres priorités qui sont plus importantes. Et c'est ça qui est intéressant. Ça demande de savoir renoncer à plein de choses aussi, notamment les déshérités. Et c'est aussi des dirigeants qui font preuve de courage, de beaucoup de courage dans ce genre de décision. Et ce n'est pas toujours le courage qu'on associe aux plus grands dirigeants. Toujours.
Alors, autre initiative qui nous a été remontée dans le renoncement, Maïf, vous savez, qui a reversé les primes d'assurance au moment du Covid. C'est Lush qui a décidé de se retirer des réseaux sociaux. C'est Aigle qui a décidé de boycotter le Black Friday, mais non seulement ne participe pas au Black Friday, mais a fermé son site internet ce jour-là. C'est Camif qui a décidé qu'il ne vendrait plus que des produits venant d'Europe et qui renonce à certaines gammes de produits, notamment les fours à micro-ondes, parce qu'il n'a pas trouvé d'approvisionnement en Europe pour l'instant. Et puis Mustela, par exemple, qui vient d'annoncer qu'effectivement en 2027, il ne ferait plus de lingettes pour bébés, sachant que les lingettes pour bébés, c'est 20% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un renoncement important.
Ça demande du courage aussi. Dernier type d'initiative dont on voulait parler, c'est cette idée d'une transcendance vers quelque chose de plus grand. C'est la capacité de certaines entreprises à changer leurs habitudes, à sacrifier certaines choses pour atteindre un objectif qui est plus grand, plus haut qu'eux, plus haut en tout cas que les préoccupations mercantiles qu'elles peuvent avoir beaucoup plus traditionnellement.
Alors l'initiative qui nous a été le plus remontée, c'est celle très récente à la fois du Crédit Mutuel et de façon quasi concomitante de la Maïf, de créer un dividende sociétal pour Crédit Mutuel et un dividende écologique pour la Maïf. Crédit Mutuel, c'est 15% du revenu, du bénéfice qui va être reversé à des actions environnementales et sociétales. Ça représente quand même 500 millions d'euros par an. Donc là, on parle de choses qui sont massives. Maïf, c'est 10% des revenus également. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose qui parle. Et donc jusqu'à présent, quand on parlait de mécénat ou d'action philanthropique, on était sur des 1 ou 2% maximum. Donc vous voyez, 15 et 10%, c'est quand même énorme. Donc un verbatim qui illustre parfaitement une initiative qui permet de dédier de vrais moyens à l'action. Là, on n'est plus dans le RSE washing, mais dans quelque chose de concret et significatif.
Et la puissance de ce type d'initiative, c'est qu'elle est démontrée par la capacité des entreprises à renoncer à des fonctionnements habituels, à changer leur façon d'être, à changer leur façon de fonctionner ou de coopérer. Donc elles sont dans des logiques d'open source, elles sont dans des logiques de coopétition, elles sont parfois, on vous montrera dans les derniers exemples, dans des logiques de gratuité assez étonnantes parfois. En tout cas, il y a cette idée qu'elles évoluent vers un rôle citoyen, politique, avec cette idée que la neutralité n'est plus possible aujourd'hui. Enfin, c'est plus une option aujourd'hui. De plus en plus, ces entreprises ne peuvent pas se contenter de se terrer au moment où il se passe des choses. Elles doivent de plus en plus prendre parti, elles doivent de plus en plus s'exprimer sur ces choses-là, elles doivent prendre position. C'est aussi ça qu'elles font à travers ce genre d'initiative.
Voilà, donc dans les exemples de coopétition, c'est par exemple McDonald's et Starbucks, qui sont des très bons amis, vous le savez, qui ont décidé de coopérer pour le développement des gobelets réutilisables et pour les rendre plus accessibles. C'est aussi l'initiative Clean Sky qui nous a été aussi remontée, qui est l'association, le partenariat entre tous les acteurs de l'aéronautique qui sont quand même en très forte concurrence, pour trouver, développer des solutions pour une aviation moins carbonée. Et puis, comme le disait Laurent, alors à une échelle peut-être plus modeste, mais plus citoyenne et plus locale, l'initiative Je m'appelle Reviens de Monoprix qui propose de prêter des articles, voilà, comme des appareils à raclette, par exemple.
Vous avez besoin deux fois par an. C'est débile d'en acheter un, c'est débile de le stocker chez vous. Monoprix vous dit, bah, venez, vous le prenez, vous nous le rendez dans 3 jours, et c'est gratuit, et c'est wow.
Voilà, c'est même pas de la location, c'est du prêt. Ou alors, ils proposent aussi des services, venez regonfler votre vélo, etc. Donc voilà, des choses citoyennes.
Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, rapidement? Au-delà de je vous reprends ce témoignage d'un professionnel qu'on avait interrogé dans notre étude, qui conclut, comme enfin, lui, il nous dit ça, et je trouve le témoignage particulièrement frappant. Au-delà des effets d'annonce, je constate que le mouvement collectif est engagé, quel qu'en soit le porteur ou la portée des actions. 2023 marque en France une réelle prise de conscience collective des thématiques sociales et environnementales. Le business as usual a débuté sa transformation au risque d'une exclusion des acteurs non vertueux. C'est cette transformation qui doit être applaudie, et je trouve que c'est un message, d'abord, que je trouve tout à fait sensé, vrai. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé en 2023 qui va continuer. Il y a une prise de conscience qui commence à s'opérer. En tout cas, c'est un patron de l'expérience client. Ce n'est pas un patron de la RSE, c'est un patron d'expérience client qui s'exprime comme ça. Je voudrais terminer. J'ai deux slides à vous raconter, mais ça va aller vite. Première chose, c'est regarder maintenant. Enfin, tout ce qu'on vous a raconté ici, ça vous permet de reprendre comme une grille de lecture et regarder qu'est-ce que vous pouvez penser de vos initiatives RSE. Est-ce qu'elles sont, ces initiatives RSE, est-ce qu'elles sont véritablement visibles et concrètes? Posez-vous ces questions. Est-ce que mon initiative en RSE, est-ce qu'elle engage véritablement mes collaborateurs? Est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle est pédagogue? Est-ce qu'elle parle au plus grand nombre? Voilà tout à fait le genre de questions que vous devez vous poser. Est-ce que je les ai pensées pour qu'elles soient win-win-win, comme on en parlait tout à l'heure? Si elles sont que win-win, est-ce que je ne peux pas me débrouiller pour recréer le troisième win ou trouver quelque chose qui fasse que j'ai le troisième win? Rendent-elles plus désirables les nouveaux modes de consommation? C'est extrêmement important. Vous avez vu ce que font Decathlon et notamment qui est publicité par ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces modes de consommation nouveaux soient rendus désirables? C'est extrêmement important, bien sûr. Font-elles changer le regard et questionnent-elles le statu quo par rapport à la perception qu'on peut avoir d'entreprise, par rapport au handicap, par rapport à la maladie, par rapport à des choses comme ça? Sont-elles engagées, fidèles à vos valeurs? Et puis surtout, est-ce qu'elles sont faites dans le bon timing? L'idée du timing en matière de RSE, le timing, c'est un truc fondamental. Je termine là-dessus. Pour terminer sur le dernier petit mot d'ordre et le dernier message qu'on voulait faire passer, si vous voulez savoir tout ça, vous n'avez pas le choix. Il faut Interrogez vos clients. Il faut sonder vos collaborateurs. Il faut prendre régulièrement le pouls de vos parties prenantes. Et c'est pour ça qu'on vous proposera ça derrière. Mais vraiment, c'est ça le grand enjeu. C'est ça le grand enjeu. Voilà, on a terminé. On a peut-être la place pour une question, je suis désolé. Et après, il va falloir y aller. Bon, super, merci pour le retour. Merci. Une question éventuellement ? Non ? Allez-y. Oui, c'était très B2C parce qu'il y avait les dimensions collaborateurs, etc. Oui, c'est vrai que c'était très B2C. Je ne vois pas pourquoi en B2B ça ne fonctionnerait pas, honnêtement, parce que on fait toujours un monde de différence entre le B2C et le B2B. On les étudie tous les jours, le B2C et le B2B. C'est pas si différent que ça, finalement, dans les attentes. Donc je pense, j'ai pas la preuve, mais j'ai le pressentiment que ça doit marcher aussi.
Et si vous voulez continuer la conversation, c'est stand numéro 100.
Oui, on vous accueillera très volontiers, bien sûr. Merci.